Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine dans Univox, Radio Campus Angers vous parle santé mentale des étudiantes et étudiants à travers des exemples d'organismes compétents pour répondre à ces problématiques. La crise sanitaire a depuis un an un impact considérable sur l'ensemble de ce qui fait une vie. Des rencontres, des moments passés avec ses amis, sa famille, des projets, des loisirs, des voyages et des études. Ce contexte anxiogène dans lequel nous baignons toutes et tous depuis un an influence largement notre santé mentale. La publication d'études et rapports en tout genre liés à cette thématique montre qu'il s'agit d'un enjeu de société de premier plan. Je vous propose de commencer dès maintenant cette émission, médecin et psychologue au chevet des jeunes en souffrance psychologique.
Univox.
Commençons par un entretien avec Fanny Sauvade, co-directrice avec sa consœur Laurentine Véron de l'association Apsitude. Elle regroupe une soixantaine de psychologues présents en France métropolitaine et propose gratuitement des services d'accompagnement psychologique pour les étudiantes et étudiants. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Concrètement, quelles sont vos missions auprès du public étudiant? On sait que la vie étudiante est souvent présentée à travers un discours très idéalisé qui ne reflète pas toujours les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes qui souffrent de mal-être et de pathologies psychologiques qui peuvent être assez graves.
Alors, on a différents types d'actions, à la fois des actions collectives ou des actions individuelles. On a déjà des actions de prévention qui ont pour but de faire une première opération de sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants à l'importance de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé mentale. Donc c'est, par exemple, on met en place des stands dans des résidences universitaires, des restaurants universitaires ou des écoles, dans des lieux passants où on va engager un peu un dialogue informel avec eux pour un peu prendre la température, puis aussi les orienter vers les services d'aide dont ils peuvent bénéficier. C'est aussi tout un travail aussi de déstigmatisation, finalement, du recours aux professionnels de santé mentale, parce que même si aujourd'hui les psychologues sont présents dans la vie de tous les jours, quand on doit y avoir recours soi-même, c'est parfois difficile d'accepter d'y avoir recours. On se dit peut-être c'est pas assez grave ou il y en a d'autres qui en ont plus besoin. Donc c'est de casser aussi un peu les mythes, les idées reçues autour de ça. Et puis, on a tout un pôle, bien sûr, de consultation psychologique pour les étudiants. Donc, quand on ne peut plus être en prévention et que le mal-être est là, il faut quand même qu'on puisse suivre les étudiants, leur proposer vraiment un accompagnement. Et on fait aussi de la formation pour les professionnels qui travaillent au contact d'étudiants, parce que souvent, ce sont eux qui reçoivent les premiers discours de la souffrance des étudiants, et c'est pas toujours simple de savoir comment réagir quand on n'est pas un professionnel de santé mentale. On a deux modalités de consultation, une modalité en présentiel, donc chez nous ça s'appelle les Apsi Awards, et ce qui est apparu il y a 5 ans chez nous, c'est la modalité distancielle. Donc en fait, nous, ça fait depuis plus de 5 ans qu'on développe la vidéoconsultation.
À présent, nous allons aborder la thématique de la santé mentale des étudiantes et étudiants au regard de la crise sanitaire que nous connaissons depuis bientôt un an. Partout, on voit des lettres ouvertes d'étudiants qui n'en peuvent plus, des études aux chiffres alarmants sur les dépressions des jeunes. Sur Twitter, on a un hashtag étudiant fantôme qui se fait de plus en plus remarquer. Parfois, certaines et certains envisagent même de mettre fin à leur jour et finissent par passer à l'acte. Une étude menée fin 2020 par la Fédération des associations de l'Université de Lille a sondé 3000 personnes et les résultats sont les suivants. 60% des interrogés se sentent déprimés, 15% socialement isolés, 70% épuisés. Vous avez peut-être des chiffres à ce sujet pour compléter un petit peu
Non, alors j'ai pas de chiffres à notre niveau. Le constat, effectivement, il est là. Après, il faut quand même souligner que des chiffres inquiétants concernant la dépression, on sait que les étudiants sont plus vulnérables à la dépression que la population générale, ça on le savait déjà. Maintenant, c'est vrai que le contexte sanitaire a sûrement amplifié un certain nombre de situations et de mal-être qui étaient préexistants, mais pour nous, ça c'est des constats qu'on fait déjà depuis un an.
Et depuis la crise sanitaire, est-ce que vous, à votre niveau, chez Apsitude, vous avez constaté une hausse significative de la demande de consultation ?
Il est vrai que on a une recrudescence effectivement des demandes d'aide depuis la rentrée universitaire. Je dirais que de mars à juin dernier, on n'a pas vu ce phénomène, pas forcément d'augmentation, mais depuis la rentrée universitaire, oui.
Est-ce qu'à tout hasard, les étudiantes et étudiants étrangers présents en France dans le cadre de programmes d'échange sont venus vers vous ou vous pensez que c'est un public relativement minoritaire ?
Alors nous, c'est en général 30% déjà de notre public accueilli sur les consultations. L'année dernière, quand on a fait le bilan à l'été, c'était toujours le cas. Là, cette année, j'ai un peu moins la vision, mais oui, on a toujours des étudiants internationaux, effectivement.
Qu'est-ce qui ressort du discours, entre guillemets, de vos patients ? C'est plus le manque de vie sociale, le suivi des cours à distance, le sentiment d'être délaissé ? En quelques mots, vous pouvez peut-être nous en parler ?
Oui, c'est différents aspects. Je dirais que c'est, là encore, hein, ça vient mettre l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes, mais effectivement, la difficulté de se mettre dans un nouveau parcours d'études quand c'est notre première année d'études, de se motiver, de trouver du sens, là d'autant plus dans le contexte où on a du mal à se projeter dans l'avenir. Certains métiers aussi, on se dit, mais finalement, est-ce que ça a bien du sens de se mettre dans cette voie-là ? C'est vrai que l'isolement social des étudiants était déjà un sentiment important, la difficulté à créer des liens. Et puis là, c'est vrai qu'au vu du contexte, il y a d'autant moins d'opportunités de le faire. Donc effectivement, ça va questionner à la sortie du confinement sur comment les étudiants vont pouvoir un peu raccrocher les wagons et recréer des liens. Donc voilà, je pense que ça met vraiment l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes, le fait d'être seul, de vivre seul et s'organiser dans son logement étudiant, ou au contraire, là, ça vient aussi jouer des choses quand on est de nouveau en promiscuité avec sa famille, avec ses parents, alors qu'on avait atteint une certaine autonomie. C'est vrai qu'il y a un sentiment quand même d'épuisement, et puis concernant les apprentissages, la difficulté remontée régulièrement par les étudiants d'arriver à être en visio tout le temps.
Et quels sont les symptômes fréquents qui apparaissent chez le public qui vous sollicite, à la fois les symptômes apparents et peut-être plus cachés, a priori plutôt non apparents au niveau du mal-être ?
Les symptômes anxieux, les symptômes dépressifs qui sont majoritaires, comme vous le disiez, le sentiment d'isolement, les préoccupations, les questions existentielles en fait, qui sont déjà assez fréquentes à ce moment-là de la vie. Avec une difficulté aussi à se positionner, à faire des choix pour son avenir, à une difficulté de se projeter. Donc là, c'est d'autant plus important au vu du contexte.
Je vous parlais il y a un instant des étudiantes et étudiants qui témoignent de leur mal-être sur les réseaux sociaux, oui. Notamment. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête a publié le 16 décembre un rapport pour, je cite, « mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse ». Sans rentrer dans les détails, c'est un rapport de plus de 300 pages qui est public. On peut tout de même mentionner les titres de certaines parties du rapport en lien avec notre thème du jour. Un petit peu à la louche, hein, les effets négatifs du recul de l'activité physique et des déséquilibres alimentaires, un équilibre psychique et moral des jeunes à reconstruire, une crise sanitaire propice à l'apparition ou à l'aggravation de troubles psychiques, des expressions de mal-être et de fragilité chez les adolescents et les jeunes adultes, des séquelles possibles dans le développement personnel des jeunes, un discours culpabilisant, une méthode qui relègue les jeunes dans l'angle mort, une parole qui ne doit pas être ignorée. Et je pourrais multiplier les exemples, et je reviens vers toi Fanny, c'est toute une génération qui va se retrouver durablement touchée par la pandémie. Quel regard tu portes et quel regard vous portez chez Absitude sur les perspectives de cette jeunesse ?
Je pense qu'il y a peut-être une grosse remise en question finalement de notre mode de fonctionnement au niveau sociétal. Donc voilà, ça fait depuis déjà plusieurs années que... Un ou deux ans, je dirais qu'on a déjà des jeunes qui se posent beaucoup de questions sur comment fonctionne le monde, des préoccupations sur le climat, sur l'éco-anxiété. Donc, et il y a pas mal de jeunes qui font le lien avec la crise sanitaire qui nous occupe. Donc, je pense que cette question du sens et du fonctionnement de notre société va peut-être faire bouger un petit peu les lignes. Là aussi, sur la manière d'être en lien les uns avec les autres, encore une fois, je pense que voilà, cette crise, elle va peut-être marquer un avant et un après dans les relations qu'on a les uns aux autres.
Chez Absitude, j'imagine que vous allez rester entre guillemets mobilisé pour encore de longs mois pour aider ce public à s'en sortir.
Tout à fait, oui. Alors, nous, on n'a absolument cessé aucune activité en fait depuis le premier confinement. Dès les annonces en mars dernier, on a pu, comme je le disais, basculer tous nos accueils présentiels en vidéoconsultation. Et puis, bon, dans les effets, on va dire, les bénéfices secondaires de cette crise, on a de plus en plus de, voilà, d'institutions, d'écoles, de partenaires qui accélèrent le mouvement, même s'il y avait une prise de conscience déjà de la nécessité d'agir pour la santé mentale des étudiants. Voilà, là, le contexte fait que ça peut accélérer aussi la mise en place de certains dispositifs. Et donc, il faut qu'on retienne aussi ça, c'est que dans cette crise, ça permet aussi la mobilisation de moyens pour faire avancer les choses.
Pour conclure, tu as peut-être un petit message de soutien à transmettre aux étudiantes et étudiants qui nous écoutent, et peut-être particulièrement à celles et ceux qui ne se sentiraient pas bien et qui souhaiteraient être prises en charge.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un contexte pas facile. On est isolé. Je crois que même si on a du mal à être en contact avec ses proches, voilà, ne pas hésiter à rester en lien le plus possible, et s'il y avait le moindre doute, un mal-être qui dure depuis un moment, dont on n'arrive pas à se sortir, même s'il y a une morosité ambiante, il faut quand même pouvoir se préoccuper et faire appel à un professionnel, si ça dure plus de 15 jours et qu'on se sent pas bien, mieux vaut faire appel à un professionnel pour aller mieux et enrayer les difficultés rapidement.
Et les consultations, les services proposés par Aptitude sont gratuits.
C'est complètement offert, effectivement, par nos partenaires. Oui.
Thank you.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
De retour dans cette Univox consacrée à la santé mentale des étudiantes et étudiants. Après cet état des lieux réalisé avec Fanny Sauvade, psychologue et co-directrice de l'association Aptitude, intéressons-nous au cas d'Angers. Le SUMS, Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, est dirigé depuis septembre 2020 par la docteure Florence Hartheiser, que nous avons interrogée.
Bonjour Florence. Le SUMS, on peut le résumer en quelques mots rapidement. Le but, c'est d'assurer la bonne santé des étudiants par des bilans et des consultations en proposant médecine générale, psychologie, psychiatrie, diététique, gynécologie et même un service social. Il est gratuit pour les étudiantes et étudiants de l'université et les écoles qui y sont conventionnées et assisté par des étudiants dits relais santé. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors ce sont une dizaine d'étudiants en fait qui sont recrutés l'année universitaire précédente pour la rentrée, qui ont ensuite avant la rentrée une semaine entière de formation et puis au cours de l'année, alors habituellement c'est les étudiants que vous pouvez croiser sur les stands de prévention de la santé. Évidemment cette année c'est un petit peu différent, nos stands sont virtuels, ils sont sur Instagram par des posts, sur des points clés type notre distribution de colis alimentaires chaque semaine, qui permet de faire vraiment un lien par les pairs en fait. Et ça, c'est très important parce que les étudiants, on voit qu'ils sont beaucoup plus à même à discuter, à engager une discussion qui est peut-être moins formelle qu'avec un professionnel de santé.
Comment vous avez redéployé votre activité dans le contexte sanitaire depuis bientôt un an, tant au niveau du personnel que du suivi des étudiantes et étudiants ?
On a un rythme de consultation en présentiel qui est un peu plus lent que d'habitude, tout simplement pour pas avoir une salle d'attente pleine quotidiennement. Mais les consultations en présentiel continuent pour tous les professionnels de santé quasiment. Et au-delà de ça, on est beaucoup vers l'aller vers les étudiants. Donc on propose des choses en ligne, des choses en groupe sur Discord par exemple. Ça peut être de la séance de relaxation jusqu'à juste simplement proposer un jeu de société, d'ailleurs avec nos étudiants relais santé justement, pour recréer un lien social et un esprit un peu de promo qui pourrait manquer aux étudiants.
Vous avez eu des fois des retours de la part de maîtres de conférences ou de personnel qui se disaient inquiets de l'état de santé de leur promotion. On avait des fois des profs qui disaient « je suis inquiet pour tel élève qui ne met plus sa caméra, qui ne vient plus en cours », ce genre d'éléments.
Les scolarités, en fait, ont la possibilité de revenir vers nous et vers notre équipe de prévention collective pour pouvoir faire des actions ciblées. C'est justement le but de la prévention collective, c'est de cibler sur certaines promos certains problèmes. Alors parfois, c'est un groupe de 10 où on a discuté de problématiques de sommeil, par exemple. Ça, on a beaucoup en ce moment. Donc on essaye vraiment de cibler. Donc les scolarités reviennent vers nous, soit pour un étudiant en particulier à qui on propose un rendez-vous individuel, soit pour un groupe, auquel cas on fait une action collective.
Au-delà du sommeil, il y a aussi tout ce qui concerne, j'imagine, lien social, décrochage scolaire.
L'isolement, c'est le mot qui revient le plus. L'anxiété aussi de ressortir de chez soi. Ça, on a énormément d'étudiants qui se sont finalement habitués à rester chez eux. Et là, de ressortir pour aller faire un examen ou aller à un cours en présentiel, il y a une vraie anxiété qui se crée. Il n'y a pas à en culpabiliser. Et il ne faut pas hésiter à venir consulter parce que nous, on a des outils après pour vous aider à gérer cette anxiété, ce stress.
Vous pensez qu'il y a justement beaucoup d'étudiantes et étudiants qui n'ont pas osé forcément venir vers vous ?
On remarque qu'il y a beaucoup de retard à la consultation, notamment sur les motifs psychologiques. Souvent, on arrive sur des suivis psychologiques longs, alors qu'à la base, on aurait pu donner des outils de gestion, on aurait déjà pu agir. On préfère qu'il y a une première consultation qui ne mène pas forcément à un suivi, mais simplement qu'il y ait déjà un premier contact et une première orientation vers différents professionnels pour pouvoir gérer en fait, la suite. Notre mission première, en fait, c'est la prévention, en fait. Donc, dès qu'on se trouve un peu en difficulté, même si on ne sait pas exactement quelle est notre difficulté, mais on sent que c'est plus difficile ces derniers temps, nous, on propose, en fait, de faire un point avec une infirmière ou un médecin dans une consultation dite de première écoute, où là, vraiment, on va faire le point sur toutes les difficultés. Ça peut être social, ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être plein de choses. Ça peut être juste simplement se poser des questions sur son orientation universitaire aussi. Et donc, nous, on connaît bien les structure, on sait vers qui orienter. Donc, c'est vraiment pas un problème de pas savoir pourquoi on consulte, en fait. Simplement de dire, je me sens en difficulté, ça suffit. C'est un motif déjà de consultation.
Vous avez déploré un manque de moyens ou les effectifs que vous aviez déjà au sein du SUMS ont suffi pour quadriller la demande qui, évidemment, a beaucoup augmenté ces derniers mois.
Bon, alors cette demande, notamment en psychologie, elle augmente sur les dernières années. Et là, évidemment, elle a fait un pic. Donc, en fait, ça révèle un problème sous-jacent. Donc, on était déjà en augmentation d'effectifs, notamment des psychologues et des médecins. Là, on poursuit un peu cette augmentation d'effectifs, et notamment au niveau des psychologues, puisqu'on a eu des financements donc, du ministère et même un financement de la région. Donc, on a pu étayer quand même pas mal les choses. Est-ce que ça suffit ? Non. Là, on est en gros à trois psychologues pour 30 000 étudiants. Il en faudrait un pour 3 000. Là, on a un dispositif dit de chèque d'accompagnement psychologique qui va aussi nous aider, même si la mise en place là se fait attendre. Mais voilà, ça va nous aider aussi, peut-être pour des suivis plus courts, justement, à proposer ça aux étudiants. Évidemment, ceux qui auront besoin d'un suivi plus long, ils seront toujours bienvenus au sein du service.
Ça fait maintenant plusieurs semaines que les problèmes de santé et de précarité étudiante font couler beaucoup d'encre dans la presse. Et à l'échelle locale, on a des étudiants ici à Angers qui ont témoigné de leurs difficultés. On vient d'en parler, hein, décrochage scolaire, voire abandon d'études, renfermement sur eux-mêmes, isolement. Le pessimisme s'est vraiment abattu sur le milieu universitaire. On se dirige vers des conséquences dramatiques. Est-ce qu'on veut parler, comme on a entendu, d'une génération perdue où il est encore trop tôt pour tirer un premier bilan un an après le début du premier confinement ?
Alors, on en parle beaucoup, mais à raison. Parler de génération sacrifiée ou perdue, j'espère pas. C'est un peu tôt, effectivement, pour avoir un recul. Mais vraiment, j'espère pas. Simplement, le message, ça va être vraiment de consulter tôt. Et même si c'est pour un décrochage, en fait, c'est vrai que nous, on a l'étiquette un peu santé. Mais finalement, voilà, on peut proposer d'autres choses. On peut faire un lien vers le tutorat qui a été mis en place aussi à l'université pour justement recréer un étayage un peu méthodologique, pédagogique et un lien social, en fait, parce que ce tutorat, il peut se faire en présentiel aussi, et ça permet d'avoir un point régulier dans la semaine, en fait, pour sortir de chez soi et revoir, mais en petit groupe, sans forcément se mettre dans un amphi, voilà. Donc, c'est un peu tôt pour faire le bilan, mais génération perdue, non, j'espère vraiment pas.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle de cette prise de conscience des difficultés des jeunes de façon globale, on a aussi vu émerger des discours très culpabilisants. Des jeunes jamais satisfaits de ce qu'on leur donne, d'être fragiles psychologiquement. C'est un phénomène nouveau qu'on observe, ou ça s'est déjà produit par le passé, ou c'est vraiment arrivé avec les plateaux de télévision un peu café du commerce ?
Les étudiants, c'est une cible un peu facile, malheureusement. Ils ont aussi été accusés de la seconde vague, alors qu'on avait très bien prédit ça dès le printemps, que vu la courbe épidémiologique et vu que en hiver, forcément, on est plus en intérieur, il allait y avoir une seconde vague. Et malgré ça, on a quand même accusé les étudiants d'avoir trop fait la fête à la rentrée. Honnêtement, alors, nos patients ne nous racontent pas tout, mais quand même, voilà, il y a un secret médical, donc ils n'hésitent pas trop. Ça a été très ponctuel, les fêtes de rentrée. Enfin, il n'y a vraiment pas eu un phénomène comme on aurait pu s'attendre à vraiment énormément de fêtes. Au contraire, ils ont été très responsables, et malgré ça, ils sont accusés en fait de cette seconde vague qui était inévitable. Donc il y a aussi un sentiment d'injustice, je trouve, parmi nos étudiants, d'avoir vraiment bien respecté et de payer finalement un lourd tribut à cette crise, et finalement d'être quand même pointé du doigt. Donc il y a un gros sentiment d'injustice, ouais. Ils ont tellement fait d'efforts voilà, ces efforts-là, ils ne sont pas reconnus. Et alors que encore maintenant, beaucoup sont en distanciel, dans des chambres qui sont souvent très petites, voire insalubres, parce qu'on a quand même eu un gros problème de logement à Angers en particulier, voilà, sur des logements étudiants dès la rentrée. Rester toute la journée en cours en distanciel dans un logement qui n'est pas confortable, et forcément, là, on peut mettre toutes les consultations de psychologues du monde à côté, et le moral, il ne va pas aller mieux tant qu'on est dans cette configuration-là, c'est certain.
Et avec en plus la perspective d'y rester, parce qu'on a les L1 qui ont repris un petit peu les cours, mais les deuxième, troisième année et les masters déjà ne peuvent pas reprendre les cours en présentiel, ce qui est quand même dommage pour la fin d'une scolarité, peut-être arriver à Bac+5, et même parfois des stages qui ont été annulés dans la foulée.
On a beaucoup parlé des L1 et c'est vrai que l'adaptation à l'université est beaucoup plus difficile quand on ne la connaît pas déjà de base. Mais on voit que c'est pas forcément que les L1. On a des étudiants vraiment de tous les niveaux qui viennent et c'est pas dépendant du niveau ou de l'âge ou de la maturité, parce qu'on a entendu ça aussi. C'est vraiment pas ça qui est en question. Le phénomène des stages, effectivement, hein, c'est un gros problème pour eux. Ils ont peur de pas valider leurs années. Forcément, encore une fois, vous pouvez avoir un suivi psychologique toutes les semaines. Si vous ne voyez pas votre diplôme arriver ou votre avenir serein, forcément, ça ne peut pas compenser.
Le président de l'Université d'Angers, Christian Robledo, a défendu dans les colonnes de Ouest-France récemment un retour à la normale, en tout cas à l'échelle de l'université, avançant la possibilité de mettre en place un protocole sanitaire strict permettant d'accueillir tous les cycles. Vous partagez ce point de vue qui permettrait de mettre du baume au cœur à celles et ceux qui sont meurtris par ce contexte sanitaire et même les autres?
Le moral des étudiants au global ne s'améliorera pas tant qu'on n'a pas un retour en présentiel. Et de tout niveau, et un peu plus qu'un jour par semaine, parce que même si un jour par semaine, c'est déjà bien, ça suffit largement pas en fait pour leur repermettre un lien social en fait. Vous avez vu votre classe ou votre promo un jour par semaine pendant 2 mois, vous les connaissez pas, et ça c'est super important en fait, cet esprit de groupe en fait, de rien que pouvoir dire cette partie là du cours j'ai pas compris, et d'avoir quelqu'un vers qui se retourner, c'est tout bête, mais en fait c'est super important. Et ça, je pense qu'on s'en rendait peut-être pas forcément compte avant au niveau pédagogique, on avait des grandes idées sur la pédagogie en général, mais en fait ça, cette pédagogie qui se fait entre étudiants, elle est tout aussi importante. Après, nous, forcément, on a une vision biaisée, on voit que des étudiants, donc oui, pour eux, le bénéfice, ce sera de revenir, plus que de rester chez eux.
Toujours à propos du suivi psychologique, vous pensez qu'il va devoir se pérenniser? On a vu des ateliers de sophrologie qui avaient été mis en place pour lutter contre l'anxiété et le stress à la fin du mois de janvier. Il faudra poursuivre, voire amplifier ces dispositifs dans les semaines et les mois qui viennent?
Oui, c'est assez évident. De toute façon, quand on regarde la courbe de demande en fait en psychologie et en termes de relaxation, de gestion stress, etc., elle est croissante sur les dernières années. Donc ça, c'est pas un phénomène qui va s'arrêter avec la crise. Quand bien même on serait tous vaccinés et qu'on pourrait tous ressortir, c'est quand même un phénomène qui existe. Alors on peut le voir le verre à moitié vide en se disant qu'il y a un mal-être étudiant qui monte d'année en année. On peut aussi voir ça comme une déstigmatisation aussi.
Cette émission vous a été proposée par Léo de Radio Campus Angers,
dont les étudiants parlent de plus en plus en fait, osent de plus en plus en parler. Il y a probablement des deux. Après, c'est effectivement, nous quand on demande des mesures, il y a pas mal de mesures qui ont été annoncées. On demande toujours que ce soit pérennisé en fait, parce que ça ne va pas s'arrêter. Et quand bien même la crise s'arrêterait, les conséquences post-crise seraient encore là, et le phénomène sous-jacent de montée des demandes sera là de toute façon.
Et le sport aussi tient une place de choix dans le maintien de la bonne santé mentale des étudiants.
On pousse nos étudiants qui justement se trouvent un peu isolés à aller au SUAPS, donc au concours de sport, qui sont faits en tout petit groupe. Et on voit un réel bénéfice. Faut aller voir au SUAPS, mais le sourire se voit sous le masque, clairement.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
La place de la santé mentale des jeunes a gagné énormément en visibilité dans le paysage médiatique ces dernières semaines. Le mal-être des 18-25 ans n'a pourtant rien de nouveau. Il a été exacerbé par la crise sanitaire. Ce malheureux coup de projecteur a permis à certains organismes, comme le SUMS d'Angers, de bénéficier d'importants moyens pérennes d'accompagnement d'étudiantes et étudiants en souffrance. Mais on est encore loin du compte, comme le rappelait Florence Hartheiser. 3 psys pour 30 000 personnes, il en faudrait 1 pour 3 000. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, dit-on. Il est donc temps de se donner les moyens de lutter contre ce mal-être et d'arrêter les pansements pour des solutions à long terme, au risque de banaliser des souffrances qui conduisent parfois au pire.